Bon dimanche, j'espère que vous allez tous bien. Dimanche passé, je vous ai démontré par les Écritures que Jésus n'est pas venu supprimer la loi de Moïse, il est venu pour l'accomplir. On a lu ça dans Matthieu 5, 17. Alors bon, Jésus n'était pas d'accord avec certains docteurs de la loi de son époque, ça on le sait bien, quand on lit les évangiles, on s'en rend vite compte. Prions. Seigneur Jésus, je te demande de me donner de la sagesse et de donner de la sagesse à toute personne qui écoute ce message afin que toutes les choses qui doivent être dites soient bien comprises et que ta gloire puisse en résulter. Père, dans le nom de Jésus, je te le demande. Amen. Alors, que dire de ces religieux chrétiens qui disent que nous n'avons pas besoin de suivre l'exemple de Jésus-Christ. Paul n'était pas pour supprimer la loi de Moïse, comme certains essayent de nous le faire croire, et de lire 2 Timothée 3, 15, 16. Écoutez bien ce que Paul dit. 2 Timothée 3, 15, 16. Il écrit à Timothée, il lui dit: depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Alors, à quelle écriture, à quelle lettre sainte Paul fait-il allusion ici? Alors, si vous lisez bien le texte de Paul, il dit à Timothée, il dit « depuis ton enfance ». Il dit que Timothée, quand il était enfant, connaissait les saintes lettres. Or, quand Timothée était enfant, il ne connaissait que l'Ancien Testament, parce que la plupart des livres du Nouveau Testament n'existaient pas. Et que dit Paul? Que ces textes de l'Ancien Testament pouvaient rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. En effet, puisque l'Ancien Testament nous annonce la venue du Messie, de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, que pour l'apôtre Paul, il n'était pas concevable que l'Ancien Testament et la foi de la Nouvelle Alliance puissent être en conflit. Paul affirmait que toute écriture, y compris l'Ancien Testament, est utile à la doctrine et pour instruire dans la justice. On a lu ça au verset 16, 2 Timothée 3, 16, on vient de le lire. De telles paroles ne pouvaient pas être écrites par une personne qui enseignait que la loi de l'Ancien Testament était abolie. Il faut être honnête. Que disait Paul par ailleurs? Il disait dans 1 Corinthiens 11, 11, « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Jésus-Christ. » Dans 1 Corinthiens 11, 11. Jean, l'apôtre Jean, disait que celui qui dit qu'il demeure en Christ doit marcher aussi comme il a marché. 1 Jean 2, 6. Et que savait Jean, et que savait Paul, et que savaient tous les autres apôtres? Eh bien, ils savaient que Jésus était venu montrer l'exemple parfait que le chrétien devait s'efforcer d'imiter avec l'aide du Saint-Esprit en vivant une vie correcte. Regardons comment vivaient les disciples du premier âge. Eh bien, ils ne commettaient pas l'adultère, ils ne volaient pas, ils ne mentaient pas, voilà, ils étaient fidèles, voilà. Ils observaient toujours la Pâque, la Pentecôte, la fête des cabanes, ils continuaient à être circoncis, ils continuaient à observer le sabbat, le Shabbat par exemple, pardon. Quelqu'un m'a repris un jour, m'a dit « Sabbat, ceux qui disent Sabbat, c'est les sataniques, nous on doit dire le Shabbat ». Ah bon, alors le Shabbat. Toutes les interdictions alimentaires de la loi de Moïse, hein. Il a fallu que le Saint-Esprit les éclaire pour qu'ils se mettent à manger de tout, rappelez-vous. et à ne plus forcer les juifs, les non-juifs, à se faire circoncire. Rappelez-vous, je vous ai enseigné ça la dernière fois. Pierre a dû avoir une vision lui disant de manger de tout. Vous vous rappelez? Et au concile de Jérusalem, il a été décidé que les non-juifs n'étaient pas obligés de se faire circoncire. Quant au Shabbat, il a été fait pour l'homme, et nous faisons le Shabbat. En fait, on le fait deux fois par semaine, nous autres, dans nos pays christianisés. Bien sûr, étant donné que le Shabbat a été fait pour l'homme, pour qu'il se repose de ses œuvres, eh bien, certains se reposent le samedi, et puis d'autres se reposent le dimanche ou le lundi. Et alors, au moins un jour sur sept est consacré au repos physique. Le vrai Shabbat, c'est pas vraiment ça. Le vrai Shabbat étant le repos dans lequel nous sommes entrés, depuis que nous sommes entrés dans la grâce, en faisant la paix avec Dieu, nous sommes entrés dans le véritable Shabbat. Et le véritable Shabbat, c'est pas le samedi, c'est pas le dimanche, c'est tous les jours. Tous les jours, nous lui rendons un culte agréable parce que nous sommes entrés dans son repos, dans le Shabbat. On va lire Hébreux 4:11. Écoutez bien. Ah, oui, ça c'est. En effet, il a parlé quelque part au sujet du septième jour, et Dieu se reposa de toute son activité le septième jour. Dans ce passage, il dit encore, donc c'est Moïse, hein, ils n'entreront pas dans mon repos, ainsi certains ont encore la possibilité d'y entrer, et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après David, cette parole déjà citée, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Je continue la lecture. Si Josué leur avait effectivement donné le repos aux Juifs, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour de repos, d'un autre Shabbat. Il reste donc un repos de Shabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance que les Juifs ont donné. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que tout épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous louons Dieu en parole, en action, tous les jours, parce que nous sommes entrés dans le repos, dans le Shabbat, dans ce nouveau jour qui est aujourd'hui. Pas le samedi, pas le dimanche, aujourd'hui. Si vous êtes infirmière et que vous avez à travailler le dimanche, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes marchand de pain dans une boulangerie et que vous travaillez le samedi ou le dimanche, ne vous inquiétez pas. Pourvu que vous ayez un jour que vous consacrez au Seigneur et à votre repos et que vous vous reposiez de vos œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Le Shabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. Vous voyez ? Un vrai disciple de Jésus, il observe les bonnes lois de Moïse parce qu'elles ont été faites pour lui. Par exemple, dans les 10 commandements, il est dit qu'il ne faut pas mentir. Ben, c'est bien, c'est bien pour nous, c'est bien pour l'homme de ne pas mentir. Quand on ment, c'est pas bien, ça fait du mal à quelqu'un, ça peut vous faire du mal à vous aussi. Enfin, c'est pas bien, on le sait. Tu ne tueras pas. Ben, c'est aussi une bonne loi qui était faite pour l'homme. Non ? Ben oui, c'est pas une loi qui est faite pour nous embêter, pour nous contraindre. Honore ton père et ta mère, ça aussi c'est une bonne loi, non ? Ben c'est dans les 10 commandements. Ne commets pas l'adultère, ça aussi c'est une bonne loi. Hein ? C'est comme, voilà, c'est comme le Shabbat, c'est une bonne loi. Bref, les 10 commandements sont bons et sont pratiqués par les chrétiens. Même le Shabbat, qui veut dire repos. Je vous le rappelle, parce que peut-être vous ne savez pas, mais Shabbat, le Shabbat, c'est le repos. Quand les Juifs disent on fait le Shabbat, ça veut dire on fait le repos que Dieu veut que nous ayons tout le septième jour. Parce qu'on est entré dans son repos, plus nous avons au moins un jour sur sept sans travail pour pouvoir adorer Dieu dans la communion fraternelle et avec notre famille. Ça, c'est parfait. Est-ce qu'il y a besoin de mettre une loi contraignante qui... Non, non. Nous fêtons la Pâque. Vous ne fêtez pas la Pâque? Nous fêtons la Pentecôte. En Suisse, c'est férié même, le jour de Pentecôte. Nous sommes circoncis de cœur. C'est ça la chose, circoncis de cœur. On va dire Romains chapitre 2, verset 25-26. Voilà ce qu'il est dit. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Il déclare juste celui qui a la foi en Jésus. La loi... Attendez. Non, je me suis trompé de référence, excusez-moi, ce verset est très bon, mais c'est pas celui-là que je voulais vous lire. C'est là. Certes, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu violes la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis respecte les commandements de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision? Ainsi, l'homme qui accomplit la loi sans être circoncis physiquement, ne te condamnera-t-il pas, toi qui transgresses la loi tout en ayant la loi écrite et la circoncision? Vous voyez ce que l'apôtre Paul est en train de leur dire? Il est en train de leur dire, mais c'est clair et net, si tu es circoncis mais que tu désobéis à la loi, c'est comme si tu n'étais pas circoncis. Or, si tu n'es pas circoncis mais que tu obéis à la loi, eh bien c'est comme si tu étais circoncis dans ta chair, parce que tu es circoncis dans le cœur. La loi de Dieu, elle est au cœur de la circoncision. Se circoncire, c'est ôter un mal pour un bien. C'est ça que ça veut dire la circoncision. Ou arrêter de faire le mal pour faire le bien. C'est ça la circoncision. Et toutes les ordonnances de la loi disent de ne pas faire le mal. C'est partout, c'est écrit comme ça. Donc quand on ne fait pas le mal, ben on est circoncis de cœur. Jérémie 9, 25, je lis. Jérémie 9, 25. Égypte, Juda, Édom, les Ammonites, Moab, tous ceux qui se rasent le coin de la barbe, qui habitent dans le désert, en effet, toutes les nations sont incirconcises. Et la communauté d'Israël tout entière a le cœur incirconcis. Ah, ils peuvent être circoncis, un petit bout de zizi, on coupe. Mais s'ils n'obéissent pas à la loi, c'est comme s'ils étaient incirconcis, comme si c'était des païens. On va lire un autre texte, les Romains chapitre 2, versets 29 à 31, 2, 29 à 31, que je ne me trompe pas. Mais le juif, c'est celui qu'il est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit, et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Quel est donc l'avantage des juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Cet avantage est grand de toute manière. Tout d'abord, c'est à eux que la parole de Dieu a été révélée, elle a été confiée. Mais maintenant, s'ils n'obéissent pas à la loi de Dieu, c'est comme s'ils n'étaient pas circoncis. Donc, voilà, ils peuvent se circoncire jusqu'au coude. Ça ne changera rien. Ils sont devant Dieu comme des païens. Maintenant, regardons par exemple Galates 6.12. Galates 6.12, où il est dit, « Tous ceux qui veulent se faire bien voir par les hommes vous oblige à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être eux-mêmes persécutés pour la croix de Christ. » Vous voyez, il y avait des juifs qui étaient chrétiens et qui obligeaient les autres à se faire circoncire, les chrétiens juifs et non-juifs, ils les obligeaient à se faire circoncire parce que, comme ça, ben voilà, ils passaient pour des juifs et ils n'étaient pas persécutés par les juifs non-chrétiens. À cause de la croix de Christ. En effet, les circoncis eux-mêmes ne respectent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis afin de pouvoir tirer fierté de votre corps. Vous voyez jusqu'où va la méchanceté des religieux qui veulent se glorifier du fait que, voilà, ah, il est des nôtres, il lui manque un bout de zizi. C'est quoi ce cirque? Colossiens 3, 11. Tout ça pour vous montrer que l'apôtre Paul est un être intelligent, spirituellement intelligent, et non pas bêtement légaliste. Colossiens 3, 11. Je ne supporte pas les légalistes. Vous avez dû le comprendre, hein? Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Voilà. Christ est en tous. En tous, oui, en tous. Alors, suis-je circoncis? Oui, si j'obéis à la loi, même les femmes. Si j'obéis à la loi, je suis circoncis. Tu es une femme, tu ne peux pas être circoncite. Mais si tu obéis à la loi, tu as le cœur circoncis. Mais je ne suis pas circoncis si je désobéis à la loi, ne serait-ce qu'un seul commandement. Et voilà pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour nous sauver de cette loi qui nous menait à la mort. Car nous ne pouvons pas la pratiquer, cette loi. Il faut ouvrir les yeux quand même. On ne peut pas la pratiquer. Romains chapitre 8, verset 3. Écoutez ça. Ah, je lis déjà au début, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit, qui donne la vie en Jésus-Christ, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons, non conformément à notre propre nature, mais conformément à l'Esprit. Relisez bien ça, Romains 8, 3, et comprenez la profondeur de ce que l'apôtre est en train de dire. On ne peut pas pratiquer la loi de Moïse. D'ailleurs, Dieu l'a donnée afin de nous montrer qu'on ne peut pas la pratiquer. Et ensuite, il a envoyé Jésus pour nous dire, bon, maintenant j'en ai marre, on arrête. Je vous pardonne tous à une condition, c'est que vous croyez en moi. Et si vous croyez en moi, je vous remplirai de mon esprit qui vous donnera la force d'obéir à la loi. Vous voyez la différence? Et qu'est-ce qu'on fait quand on marche selon l'esprit? Bon, on fait le bien. On fait le bien. On fait ce que la loi dit de faire. Est-ce que vous avez compris que nous pratiquons la loi de Dieu qui dit de faire le bien, non pas pour être sauvés, mais parce que Jésus nous a sauvés? Qu'est-ce qu'il a fait à la croix, Jésus? On parle toujours Jésus à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait à la croix, Jésus? Colossiens 2 et verset 14. Écoutez bien. Il a effacé, Jésus, il a effacé l'acte rédigé contre nous, c'est-à-dire la loi de Moïse. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Les prescriptions de la loi nous condamnaient parce qu'on ne peut pas les pratiquer. Et celui qui ne pratique pas la loi, il est condamné. Et Jésus, il est venu et il a effacé l'acte rédigé contre nous, la loi, qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en la clouant à la croix. Il a cloué la loi de Moïse à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il l'a détruite. Cela signifie qu'elle ne nous condamne plus. Mais nous ne profitons pas de cette grâce que Dieu nous a donnée pour désobéir à la loi. Parce que vous avez des petits rigolos aussi qui disent voilà, on peut faire n'importe quoi maintenant puisque Jésus est mort à notre place et maintenant il a détruit la loi donc on peut faire n'importe quoi. Non, Romains 6, 14. Écoutez bien ce qui est écrit dans Romains 6, 14. Ah, ne mettez plus d'abord au verset 13, ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc ? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce ? Certainement pas. Vous voyez ? Est-ce qu'on va désobéir à la loi parce qu'on est sous la grâce ? Certainement pas. Et voilà. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous l'observons car nous sommes sous la grâce. J'espère que vous m'avez bien compris. Sinon, vous remettez tout au début et vous réécoutez de nouveau pour être bien au clair là-dessus. Ça, c'est des choses qu'on ne vous enseignera pas facilement dans les églises. Apprenez ces choses. Soyez bien convaincus que vous êtes sauvés par la grâce de Dieu, si vous avez foi dans cette grâce. Et il vous donne par la puissance du Saint-Esprit la possibilité d'obéir à la loi. Et si vous péchez, parce que celui qui dit qu'il n'a jamais de péché, il fait Dieu menteur, si vous péchez, il est fidèle et juste pour vous pardonner, vous purifier de toute iniquité. Il suffit simplement que vous lui parliez de vos péchés, que vous lui confessiez vos péchés. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est gentil. C'est pas un père fouettard avec une loi insupportable. Non. Par contre, eh bien, il nous rend capables, par son Saint-Esprit, de nous soumettre à cette bonne loi, à la bonne loi de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. On reviendra dimanche prochain sur ces choses. Là, je voulais être court parce que c'est de la nourriture très solide et je ne veux pas vous prendre la tête avec ça trop longtemps. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.